À vue d'esprit, Aveline Auberçon, bonjour. Nous terminons aujourd'hui cette semaine autour de la pensée d'Emmanuel Lévinas. Le philosophe juif, français, d'origine lituanienne, est décédé il y a bientôt 15 ans. Et sa pensée, centrée sur l'autre, garde un intérêt indéniable, ici comme ailleurs. Une série proposée par Pierre-Yves Moret, réalisée par Gilles Zaman et Alain Perrottet. Pierre-Yves Moret, dernier volet de cette série autour de Lévinas. Nous retrouvons votre invité, François Gachou.
Oui, François Gachou, je le rappelle, qui a enseigné longtemps la philosophie en Suisse romande, notamment à Lausanne et à Bulle, et qui est également chroniqueur à La Liberté et La Gruyère. Alors hier avec lui, nous avons parlé de la manière dont on comprend Lévinas depuis une plateforme de compréhension chrétienne. Mmh. Aujourd'hui, nous allons parler d'un point plus spécifique avec lui pour commencer. C'est notamment un lien, en tout cas que lui voit, que lui fait. Il en parle d'ailleurs dans son ouvrage qui s'appelle « Par-delà l'athéisme » qui a été édité au Cerf en 2007. Un lien qu'il fait entre la pensée de l'altérité chez Lévinas et l'évangile de Jean, dans lequel il lit une certaine similitude avec cette pensée de l'altérité chez Lévinas. Donc pour lui, vraiment, entre Lévinas et l'évangile de Jean, il y a une lecture commune qu'on peut faire.
Bien entendu qu'il y a, à mon sens personnel, un lien profond. Si on lit attentivement l'évangile de Jean, et surtout sa première épître où il définit finalement Dieu de la manière à la fois la plus simple et la plus belle qui soit, en disant « Dieu est amour, quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu », et ce saint Jean qui ajoute « Si je dis que j'aime Dieu mais que je n'aime pas mon frère, je suis un menteur », on ne peut pas ne pas être proche de la pensée de Lévinas, puisque la primauté d'autrui chez ce philosophe est fondamentale. Donc, rapprocher Lévinas de saint Jean me paraît non seulement possible, mais hautement souhaitable. Bien entendu, Lévinas est juif. Lévinas ne croit pas que Jésus fut le Fils de Dieu incarné. Bien entendu, il y a là une conception théologique chez Lévinas différente du christianisme. Mais finalement, le christianisme n'est-il pas l'aboutissement de la religion juive au sens où tu aimeras ton prochain comme toi-même est déjà inscrit dans la Torah, dans le Lévitique plus précisément, et par conséquent Lévinas lui-même, juif très fidèle à sa tradition, en explicitant sa conception d'autrui et sa pensée et sa primauté éthique d'autrui sur moi, ne fait qu'au fond expliciter philosophiquement ce que les préceptes de la Torah juive demandent. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, pour le chrétien, Jésus l'a accompli. C'est-à-dire que Jésus n'est pas venu rejeter ou abolir, comme saint Jean le dit, je ne suis pas venu abolir la loi de Moïse, mais l'accomplir. Et accomplir dans l'événement ce précepte, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien sûr que Jésus alors universalise cet amour pour autrui, en finissant à la fin de sa prédication, de sa vie de prédication qui a duré 3 ans avec ses disciples, en finissant par la donner, cette vie, pour chaque autrui qui est mon prochain, pour tous les hommes. Ben, si vous prenez la parabole du bon samaritain, il est tout à fait clair que celui qui se fait le prochain du samaritain abandonné au bord de la route et blessé par des brigands et détroussé, c'est justement celui qui n'appartenait pas à la religion traditionnelle des pharisiens, des sadducéens de Jérusalem. C'était un samaritain qui était méprisé. Jésus veut bien montrer que cet autrui dont je me rends proche, c'est peut-être justement pas celui qui partage mes convictions religieuses, que je sois juif ou que je sois chrétien, mais c'est celui qui fait pour autrui ce bien en s'effaçant devant lui de manière désintéressée, et il fait passer autrui d'abord. Alors, saint Jean, dans son évangile, comme dans sa première épître, dit « Dieu nous a aimés le premier », c'est-à-dire que Jésus est ce Dieu fait homme qui accomplit vraiment l'amour du prochain totalement, puisqu'il donne sa vie pour tous les hommes finalement. Et par conséquent, s'il nous a aimés le premier, nous sommes ses frères. Saint Jean répète à plusieurs reprises dans son évangile que Jésus ne nous appelle pas autrement que frères et serviteurs. Il dit « Je suis le serviteur de tous ». Quand il va laver les pieds à ses disciples juste avant la passion, il leur dit « Le plus grand parmi vous sera le serviteur des autres ». Par conséquent, on a cette constante dans le christianisme et on a cette constante aussi dans la tradition juive que Lévinas a voulu mettre en valeur.
Vous avez cité la notion de l'accueil de l'étranger en tant qu'autre, dans cette description de Lévinas. Ça pose de nombreuses questions, non plus sur le plan religieux, mais sur le plan sociopolitique à nos sociétés contemporaines.
C'est évident. Je pense qu'actuellement, la situation des non-droits en Suisse, des étrangers qui cherchent refuge dans notre pays et qui ne trouvent pas d'accueil, mais le refus, et qui sont renvoyés chez eux, posent un problème éthique fondamental. Même si je ne connais pas personnellement tel ou tel cas qui est jugé, reste à savoir pour quel motif le requérant d'asile a demandé refuge en Suisse et si ce motif est valable. Là, je pense qu'on peut faire confiance à l'État qui va essayer de déterminer dans quelle mesure cette demande de refuge est authentique. Mais dans la mesure où elle l'est, alors nous avons la responsabilité de les accueillir. Quand, par exemple, des réfugiés se trouvent depuis des années en Suisse avec femmes et enfants, que c'est une famille, que cette famille a un travail, et que pour des raisons qui tiennent finalement à une loi, ils sont déboutés, il y a là une injustice dans le comportement de notre société vis-à-vis d'eux. On peut peut-être en dire autant des Roms dont on parle beaucoup ces temps-ci. En France, le fait de renvoyer systématiquement tous ces Roms qui sont certes installés là-bas de manière illégale parce que, par exemple, en Roumanie, ils ne trouvent pas de travail, pose un problème de la responsabilité sociale. Il n'y a pas seulement le côté légal ou illégal, il y a aussi le problème de la présence de ces étrangers qu'on ne peut pas traiter tout de même simplement comme des objets en les renvoyant. Et par conséquent, même si le problème est difficile à résoudre, il faut, je pense, trouver moyen de donner accueil à ces gens, de leur donner un travail, de leur donner une dignité, et le faire en accord avec le pays dont ils sortent, c'est-à-dire en l'occurrence, par exemple, ici, la Roumanie. Il y a un problème avec les gens du voyage, c'est vrai, mais la manière dont ils sont renvoyés chez eux n'est certainement pas conforme au précepte « tu aimeras le prochain comme toi-même ».
Mais est-ce que ça ne montre pas là, François Gachou, ce paradoxe, cette ambiguïté, cette difficulté d'avoir une philosophie, une conception, une réflexion sur l'ouverture et l'acceptation de l'autre, de regarder le visage de l'autre, et cette difficulté humaine de tout temps à vivre ensemble? Est-ce qu'il n'y a pas, du coup, quelque chose qui peut paraître un peu presque angélique dans la pensée de Lévinas?
Certaines personnes vont évidemment le dire, n'est-ce pas? Il est évident que si vous avez ici en Suisse, parce que c'est aussi le cas, des filles qui viennent de l'Est et qui sont vendues sur le marché de la prostitution, si vous avez des dealers et toute une mécanique de la drogue qui se met en place et que ces gens qui vendent la drogue chez nous sont précisément des ressortissants d'autres pays qui viennent semer cette pagaille-là, on ne peut pas l'admettre. C'est absolument vrai et juste. Cependant, les lois étant souvent, comme c'est toujours le cas de toute loi, ayant un caractère universel et obligé pour tout le monde, les cas particuliers sont souvent examinés seulement au regard de la littéralité de la loi et pas peut-être d'abord au regard de la situation vécue de ces gens-là. Et par conséquent, à côté d'une certaine forme d'exploitation des êtres humains qui est scandaleuse, il y a la situation très authentique de gens qui sont de fait chez nous, qui travaillent, qui rendent aussi service à notre société. Et puis tout d'un coup, on dit, vous n'êtes pas en ordre avec vos papiers, et puis vous devez rentrer dans votre pays. Vous n'êtes pas un véritable réfugié parce que vous n'êtes pas en danger. Alors, moi, je pense qu'il faut avoir la sagesse d'examiner les cas particuliers en ayant compréhension et même miséricorde vis-à-vis de ces cas particuliers pour éviter que des renvois qui paraissent scandaleux soit tout de même opéré. N'est-ce pas, quand on voit que certains sont emmenés, quasi enchaînés dans les avions pour les renvoyer chez eux, cette manière dont la police agit pose tout de même problème, parce qu'il y a là une résistance de celui qui ne veut pas rentrer, et puis il y a contrainte, il y a la force, on utilise finalement une certaine violence pour le renvoyer chez lui, et puis on s'en débarrasse. Je ne dis pas que tous les requérants qu'on déboute devrait être conservé ici, parce qu'il y a probablement des motifs de renvoyer certains, mais je dis que dans le système d'ensemble, il faut vraiment examiner au cas par cas, avec pour référence suprême, la dignité de ces personnes.
François Gachoux, auteur et chroniqueur pour les questions de philosophie à la liberté et à la Gruyère. Voilà une lecture de la pensée de Lévinas par rapport à des questions actuelles. Comme quoi, Pierre-Yves Morel, loin d'être une seule réflexion intellectuelle, la philosophie de Lévinas interroge aussi le quotidien.
Oui, Michael de Saint-Chéron insistait d'ailleurs en début de semaine pour dire que la philosophie de Lévinas n'était pas réservée au seul cercle universitaire, même si elle peut être complexe parfois à lire, mais qu'il s'agit d'une philosophie pensée pour sortir, pour rejoindre la réalité. Et c'est peut-être aussi cela qui explique l'intérêt croissant autour de Lévinas.
Donc nous retrouvons Michael de Saint-Chéron, votre invité des trois premières émissions cette semaine.
Oui, je rappelle qu'il connaissait bien Lévinas. Il a publié de nombreux livres à son sujet, notamment des entretiens avec Emmanuel Lévinas, publiés au Livre de Poche. Et puis il a participé au colloque en juillet dernier à Toulouse, le plus grand colloque jamais organisé autour de la pensée de Lévinas, ce qui montre d'une part l'intérêt toujours croissant de sa philosophie, mais également le fait que de nombreux participants venaient également de pays asiatiques. Alors je lui ai demandé ce qui expliquait cet engouement.
Parce que je pense que le monde est arrivé à une époque où une parole comme celle de Lévinas, est appelée à se répandre et à être entendue par un nombre toujours croissant de jeunes philosophes et d'universitaires et aussi des gens qui ne sont ni universitaires ni philosophes, mais qui s'interrogent sur ce qu'est l'être et sur ce qu'est la pensée et sur mon rapport à l'autre et à la vie. Enfin, ces grandes questions qui définissent effectivement la philosophie et qu'à travers son œuvre, à travers cette grande cassure, cette grande brisure d'avec la philosophie traditionnelle autour de la transcendance, de cette nouvelle acception de la métaphysique qu'il a apportée, la place de l'autre et l'épiphanie du visage, autour de ce discours sur Dieu qui est, je dirais, complètement révolutionnaire parce qu'il n'est pas d'un athée. Il est d'un croyant, mais d'un croyant qui ose frôler l'athéisme, si je peux dire. Donc, pour toutes ces questions, c'est aujourd'hui un penseur qui a une potentialité, je crois, absolument considérable.
Ce colloque à Toulouse en juillet dernier où vous étiez présent a vu de nombreux participants venir, des spécialistes de Lévinas, et qui n'étaient pas que de l'Europe. Il y avait notamment plusieurs personnes qui venaient d'Asie. Lévinas a aussi de plus en plus de succès là-bas. D'ailleurs, les ouvrages que vous lui avez consacrés sont traduits en Corée, vous m'avez dit, et en Chine.
Oui, absolument, ils sont traduits en coréen déjà il y a 2 ans. En Chine, ça va paraître l'année prochaine. Mais enfin, cet intérêt, je crois vraiment profond de l'Asie et donc de la pensée asiatique à la pensée et à l'exigence éthique de l'œuvre de Lévinas est une chose qui marque en même temps, je crois, le tournant du rapport de la grande pensée asiatique avec la pensée occidentale une fois les modes un peu passés. Voilà, la profondeur de la pensée de Lévinas ne peut aujourd'hui, je crois, qu'interroger de plus en plus les générations montantes des penseurs, justement, de l'Asie, mais aussi de l'Afrique. Enfin, ces anciens et nouveaux mondes sont appelés, je crois vraiment, à découvrir la pensée de Lévinas et à la travailler, et aussi à nous apporter une nouvelle manière à nous occidentaux et à nous judéo-chrétiens, même si on est non-croyant, une nouvelle manière d'appréhender la pensée de Lévinas. Je crois qu'une pensée est d'autant plus forte qu'elle nous revient de la part d'étrangers à notre culture avec un nouveau langage et une force supplétive et voilà un nouvel apport. Donc je crois qu'on a tout à gagner, à commencer par Lévinas lui-même, mais nous, les premiers en Europe et en Occident, nous avons beaucoup à gagner à cet intérêt et à ce rapport de miroir que nous pourrons avoir avec justement les pensées asiatiques, la réception asiatique et un jour africaine de l'œuvre de Lévinas.
Michael de Saint-Chéron, je vais me risquer maintenant à vous poser une question plus personnelle. Vous avez rencontré la personne et la pensée de Lévinas, vous avez été particulièrement touché. Qu'est-ce qui vous touche dans sa pensée ?
Rencontrer la personne, oui. Je dirais rencontrer la pensée, je ne sais pas. J'essaye de rencontrer chaque jour la pensée. Les purs philosophes diraient peut-être que je n'ai rien compris, mais voilà, j'essaye. Ce qui m'a marqué le plus, c'est donc ce renouveau que je sentais absolument essentiel, ce renouveau d'un discours philosophique, totalement philosophique, et qui était en même temps dans une volonté de faire éclater les cadres un peu oppressants et très orthodoxes de la philosophie telle qu'elle est enseignée en Occident et peut-être ailleurs qu'en Occident. Ça, c'est une chose. La deuxième chose qui m'a beaucoup frappé, qui m'a saisi, c'est qu'il est là au XXe siècle, dans ce siècle d'Auschwitz, d'Hiroshima, de tous ces cataclysmes et catastrophes que l'on connaît malheureusement, celui qui a fait entrer un nouveau langage et de nouveaux concepts dans la philosophie, des concepts qui n'étaient pas du tout au départ des concepts de philosophes, osés employer après Auschwitz et au XXe siècle, dans un siècle qui était le produit de l'athéisme technologique et technique de l'industrialisation, osés employer des mots si connotés à l'intérieur de la langue occidentale comme épiphanie, susception, substitution, kénose, que j'avais oublié de citer ces dernières émissions, kénose dans un langage philosophique et non pas dans un langage talmudique, kénose et pour finir sainteté. Voilà, pour moi c'est une chose absolument, je dirais presque révolutionnaire, de s'être permis effectivement d'avoir fait entrer même des mots comme persécuté, coupable ou otage, l'être l'otage de l'autre et parler de l'incondition d'otage, voilà pour moi c'est l'une des marques du génie de Lévinas. Et peut-être pour terminer ce dialogue qui m'ouvre personnellement à une prolongation de cette étude lévinassienne et peut-être à d'autres dialogues ensemble, mais il y a une chose qui me saisit, qui me questionne beaucoup, enfin qui questionne tous les philosophes, enfin la grande question qui date de Leibniz, enfin bien avant, pourquoi existait-il quelque chose plutôt que rien, voilà, pourquoi y a-t-il justement, non pas rien, et encore qu'est-ce que le rien. Dans les dernières années de sa vie, Lévinas, en train avec un philosophe qui s'appelle Jean Grèche, assez connu, en train avec lui, revenant d'un colloque en Hollande, s'interrogeait, mais dans un monologue, puisqu'il ne dialoguait avec Jean Grèche, et il s'interrogeait justement sur cette question, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Et à un moment, dans un état, je ne dirais pas d'extase, mais de communion profonde avec l'indicible, Lévinas disait à la fois à Jean Grèche et à lui-même, le fait que sur une terre aussi cruelle que la nôtre, quelque chose comme le miracle de la bonté ait pu apparaître est infiniment plus digne d'étonnement. Et pour moi, encore une fois, la marque de génie, de novateur absolu d'un Lévinas dans la philosophie contemporaine est effectivement d'avoir été capable d'aller jusque-là et de quitter les sentiers mille fois rebattus, rabattus et rabâchés sur pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, et de montrer justement que le miracle même de la bonté était peut-être plus grand que toute autre question sur l'existence, voilà, encore une fois, de quelque chose plutôt que rien. Et cette possibilité même de cette question de la bonté ouvrait, pour moi, mais ouvrait la philosophie de Lévinas à ce qu'il appelle cette apparition, donc cette manifestation, cette épiphanie de l'autre, mais aussi cette parole de ce même Dieu qui s'est tué à Auschwitz, de ce Dieu qui, dit-il, s'est suicidé à Auschwitz, mais dont la parole, lorsqu'elle est vécue d'un être humain pour un autre, est effectivement toujours vivante. Et effectivement, c'est cette vie même de la parole de Dieu qui compte plus que l'existence même de Dieu lui-même, cette parole, cette existence de la parole de Dieu que l'on ressent dans cette petite bonté dont Lévinas parle ici. Effectivement, c'est l'une des choses les plus novatrices qu'on ait entendues depuis très longtemps, et qui mérite effectivement que beaucoup de Japonais, beaucoup de Chinois, beaucoup de Coréens, beaucoup de gens d'Afrique et d'Australie l'étudient et la comprennent et l'enseignent à leur tour et nous la renvoient à travers leur propre culture.
Michael de Saint-Chéron, auteur et ami d'Emmanuel Lévinas. Pierre-Yves Moret, on l'a entendu au fil de cette semaine, le dieu de Nietzsche est mort, mais dans ces dernières paroles de Michael de Saint-Chéron, bien on comprend que pour Lévinas, Dieu survit dans le miracle de la bonté et dans la révélation du visage de l'autre.
Oui, car pour Lévinas, a vraiment rencontré l'autre, c'est rencontrer l'infini, et dans toute son œuvre, en fait, Lévinas a voulu montrer pourquoi est-ce que l'éthique, trouve sa source, qui prend sa source dans l'expérience primordiale de la responsabilité pour autrui, doit être considérée comme étant justement une vraie philosophie. Et cette question de la relation, de la rencontre avec l'autre, qui révèle quelque part quelque chose de divin dans cette épiphanie, dans cette révélation du visage de l'autre, c'est vraiment ce qu'il y a de fondamental. Alors j'ai réservé peut-être une petite référence, un livre d'Emmanuel Lévinas que je peux citer, dont les références figurent sur le site internet. Ce sont les deux derniers cours professés par Emmanuel Lévinas à la Sorbonne entre 1975 et 1976. Ça s'appelle « Dieu, la mort et le temps ». C'est édité au livre de poche. Un livre très intéressant pour entrer quelque part dans ses interrogations et aussi ses interrogations vis-à-vis des questions de Dieu, de la divinité. Alors, il y a des passages ardus, mais c'est un cours. Donc, c'est un cours aussi qui était censé être accessible pour des personnes qui n'étaient pas elles-mêmes Emmanuel Lévinas. Voilà.
Merci Pierre-Yves Moret. Et puis, pour terminer cette semaine, petit clin d'œil.
Oui, je vous propose d'entendre une pièce de Michael Lévinas. C'est le fils d'Emmanuel Lévinas, il est compositeur et pianiste. Il est né en 1949 à Paris. Et là, je vous propose tout à l'heure d'entendre les lettres enlacées 4. C'est une pièce pour deux violons, deux altos et violoncelle.
Merci Pierre-Yves Moret, merci aussi à Gilles Zaman et Alain Perrotet qui ont réalisé toute cette semaine ces émissions sur Emmanuel Lévinas. Rendez-vous lundi pour une nouvelle série. On va aborder la question des rites. Les rites que l'on pense être d'un autre siècle, qui sont des clichés, des caricatures, eh bien, des rites, semble-t-il, reviennent en force, un peu dans une cacophonie, mais les rites reviennent en force. On va l'évoquer avec Bernard Créta, le sociologue valaisan bien connu, et Cosette Audier, aumônier à l'hôpital du CHUV. Voilà pour le programme de la semaine prochaine. En attendant, excellent week-end à vous. Et tout de suite après les informations, vous avez rendez-vous avec Zone Critique.
Cette série vous a passionné, vous souhaitez la réentendre ou vous avez manqué un épisode, vous pouvez commander une partie ou l'entier de la série en nous appelant au 021 318 60 70. 021 318 60 70. Vous êtes à l'écoute d'Espace 2, il est 11h.